Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de PlayStation, c'est quoi la console de Microsoft déjà ? Xbox, c'est ça ? De la Switch, de PC bien sûr, parce que nous on est des vrais. On parle aussi de mobile, parce qu'on est gentil. On parle de plein de choses intéressantes, de l'industrie, des chiffres, des analyses, tout pour comprendre et pour être dans la hype des jeux du moment, parce que ça fait plaisir aussi de se laisser emporter par la vague de la joie du jeu vidéo. Et dans cette vague de joie du jeu vidéo, vous me retrouvez, moi, en maillot de bain, et JK également. C'est l'été qui arrive, donc évidemment, en distanciation de sécurité, même en train de surfer sur la hype, c'est JK et Patrick. Bonjour JK, ça va ? Elle t'a plu cette intro ?
Bonjour Patrick. Je savais pas du tout où t'allais, je savais pas quand t'allais t'arrêter. Je me suis dit, ouais, ça y est, il est parti, il a vu son maillot de bain, justement, il est
rangé. Je te rassure, moi non plus, je savais pas où j'allais m'arrêter. Donc,
C'était une impro incroyable.
Hey, ça va beaucoup, 15 ans de métier.
Bien, ça va bien. Ah oui, oui, ça va être, on sent l'expérience du podcasteur. Oui, ça va bien. Écoute, toujours à la maison, mais content d'être là. Maintenant, c'est bien parce que depuis qu'on est confiné, j'ai rentabilisé mon micro-casque plus que nécessaire avec les émissions, notamment sur jeuxvideo.com. Donc, on continue à faire des émissions, mais à distance. Donc, ça va, je commence à avoir l'habitude de faire des émissions à distance.
Bah, c'est bien. Tu vois les avantages rares mais réels du confinement. Il faut essayer de les trouver quand même. Et puis, mais écoute, il y a d'autres avantages. C'est la joie du jeu vidéo qui est encore plus présente qu'avant parce qu'on a moins des autres choses. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette joie avec notamment la première nouvelle version du Xbox Insider, avec les premières révélations de séquences de jeu et de graphismes de la prochaine génération, forcément hyper excitant. On a aussi des informations diverses sur les nouvelles consoles et les annonces potentielles qui vont arriver bientôt, les fermetures, les annulations de salons, mais pour compenser des trucs en ligne, les jeux auxquels on a joué bien sûr, plein de choses et plein de news qu'on va vous détailler. Et donc, on va se lancer, mais avant de se lancer, je veux quand même évidemment remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous savez que pour participer à la création du rendez-vous jeu, c'est très simple, vous pouvez le faire financièrement par Patreon. Et je voudrais remercier aujourd'hui Fidel Gastro, Sébastien, Alexandre Billet, Kero Rana, je vais y arriver, Rara Neja, Nicolas Barnet, Francisco Pinheiro, Philippe M, Gizmo 38, Apollonide et Guillaume. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de faire exister le rendez-vous jeu en nous soutenant sur Patreon. Alors, la grosse news de cette période, de ces deux dernières semaines, c'est évidemment, en fait, c'est un petit peu double, mais ensemble, c'est l'annonce de Assassin's Creed Valhalla et la première édition de la nouvelle formule du Xbox Insider qui a été inaugurée avec les premières images, les premières séquences de gameplay de la nouvelle génération de la Xbox Series X. Alors, on m'a fait une remarque pendant un live avec les Patriotes il y a quelques jours. Vous savez, je fais des petits lives de temps en temps, des petits Q&A, des trucs comme ça avec les Patriotes. Et on m'a fait une remarque finalement justifiée. Avant, je disais Xbox Series X, donc j'avais le français d'une part et puis l'anglophone d'autre part. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Alors, est-ce que je dois dire Xbox Series X ? Ça fait un peu trop, c'est genre, imaginez si je disais c'est la PS5 ? Non, ça le fait pas. Mais du coup, je me vois pas dire non plus Xbox Series X, c'est un peu trop franchouillard pour moi. Du coup, on m'a suggéré de dire la Series X. Ça me paraît pas mal, ou la Series X. En plus, c'est plus court. Donc, à partir de maintenant, Series X. Qu'est-ce que t'en dis ?
Et en finlandais, on dit comment ?
Suédois, on prononce en anglais, parce que moi, je suis suédophone dans le pays. Mais on prononce en anglais.
Moi, je dis Xbox Series X, tu vois, je mélange tout, moi. Allez, hop.
Xbox Series X, mais c'est un petit peu ce que je dis aussi, mais bon. Écoute, voilà. Quoi qu'il en soit, le premier Xbox Insider qui montrait les images et le gameplay de la prochaine génération, alors c'était la série X, mais aussi d'une certaine manière sans doute assez proche de ce qu'on va voir sur la PS5, et donc c'était un événement important. Couplé à ça, les premières images de gameplay de Assassin's Creed Valhalla, dont on avait vu un trailer cinématique quelques jours avant. C'était un gros moment dans l'année jeux vidéo, un truc que beaucoup de gens attendaient. Et au final, J.K., qu'est-ce que tu en as pensé ? On parlera peut-être de quelques jeux ensuite, mais juste tes impressions en général.
Écoute, moi ce que je pense déjà d'une fois, c'est que je pense que les gens en attendaient trop. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déçus. Alors que moi, je n'ai pas été déçu parce que je savais déjà ce qu'on allait avoir. Déjà, je savais ce qu'on n'aurait pas. On n'aurait pas de jeu, first party. Donc, tous les Halo et compagnie, évidemment, c'est à la trappe. Et on a vu beaucoup de jeux d'éditeurs tiers et pas forcément des très, très gros projets. Tu vois, à part Assassin's Creed, à part deux, trois trucs comme ça, il n'y avait pas d'énormes jeux, d'énormes prods. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié dans ce Inside Xbox, c'est que déjà, ça a été au début un long tunnel de trailers. C'est à peu près ce qu'on voulait. On voulait voir des jeux, on voulait voir des extraits. Alors, il y a eu très peu de gameplay d'une manière générale. C'est vrai que c'est un peu le reproche qu'on peut faire. Même sur Assassin's Creed, hein, c'était quand même un peu la blague, hein, soi-disant le reveal du gameplay d'Assassin's Creed. C'était plus un trailer fait avec le moteur du jeu que du gameplay. Par contre, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que quasiment chaque jeu qu'on a vu avait une vraie identité visuelle et artistique. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude chez Xbox. C'est plus du côté de chez Sony qu'on l'a avec la PlayStation. Il y a vraiment pas mal de jeux, moi, qui m'ont vraiment attiré l'œil en me disant ouais, là il y a une vraie proposition d'univers de visuel. En termes de gameplay, c'est peut-être encore différent. Puis encore une fois, c'est encore trop tôt parce qu'on n'a pas vu grand chose. Et tu vois, j'ai relevé vraiment au moins la moitié des jeux qui sont présentés qui me font envie, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc, d'une manière générale, j'ai trouvé ça plutôt bien parce que ils ont envoyé des projets différents, ils ont montré des jeux, il y a une vraie variété dans ce qui a été montré. Après, c'est sûr qu'on voudrait en voir un peu plus sur autre chose que des trailers faits avec le moteur du jeu, quoi. Voilà, mon impression.
Je suis content que tu sois un petit peu plus positif parce que j'avoue que moi, je suis plutôt dans le camp des déçus. Et j'irais même jusqu'à dire que, d'une manière générale, je trouve que c'est la première fausse note, la première occasion manquée. Fausse note, c'est peut-être un peu fort. La première occasion manquée pour Microsoft qui a fait jusqu'à maintenant, qui a eu une communication assez exemplaire pour la série X et la prochaine génération de sa console. Et là, je trouve que c'était vraiment une occasion manquée parce que, comme tu l'as dit, on attendait peut-être un peu trop, mais c'est pas qu'on attendait trop parce que on s'est fait des idées. Ils nous ont dit effectivement qu'il n'y aurait pas de jeu first party et que ça serait en juin ou en juillet. Mais par contre, ils nous ont dit premier reveal de la prochaine génération, et implicitement, quand on nous dit ça, nous, ce qu'on voudrait voir, et je pense ce qu'on est en droit d'attendre, c'est peut-être quelques projets. C'était quasiment que de l'indé, là. J'exagère peut-être en disant indé, mais c'est du double A, des petites équipes, ça se sentait bien. Même le premier jeu, qui était d'ailleurs peut-être le plus intéressant et dont on a vu le plus de trucs qui s'approchaient de gameplay, qui est Bright Memory Infinite, c'est un jeu qui est fait par une personne. Et donc, je crois qu'on est en droit d'attendre, quand on nous fait des annonces de ce type, qui étaient « venez voir les premiers, enfin la première révélation de ce que vont être les jeux pour la prochaine génération ». On aurait aimé voir au moins quelques images de plus qui puissent nous aider à comparer, enfin des grossissances, quoi, tu vois, voir à quoi va ressembler le Call of Duty sur série X par rapport au Call of Duty auquel on a l'habitude, peut-être un FIFA, même Madden, tu vois, les jeux de sport, c'est souvent un gros truc. Madden, on a vu vraiment une demi-seconde, enfin, on a littéralement, c'était 3 secondes d'image. Et je suis sûr qu'il y a des raisons, je suis sûr que c'est parce que les jeux sont peut-être pas prêts ou j'en sais rien, mais dans la pratique.
Bah, c'est aussi surtout parce que comme on est en plus dans une période un peu spéciale, c'est que les éditeurs préparent tous leur événement en fait. Je pense qu'il y en a énormément qui se gardent des cartouches pour je veux dire le reveal de Call of Duty. C'est pas si étonnant que ça qu'ils soient pas là, tu vois. Mais c'est vrai que
ils auraient pu, hein. Mais ça, ensuite, ça, c'est des trucs qui se dealent, tu sais, avec qui ils ont un accord. C'est des histoires financières derrière. Mais le clou, le dernier clou dans le cercueil, là encore, j'exagère un peu, mais c'était ce gameplay reveal d'Assassin's Creed qui était insultant, je trouve. Moi qui suis devenu méga fan d'Assassin's Creed et qui suis hyper hypé évidemment, pour Assassin's Creed Valhalla, méga fan de Odyssey, et en plus maintenant moi-même qui suis un viking qui vit dans les forêts nordiques, tu vois, Valhalla, c'est, ça parle à mon cœur. Avec le trailer qui était super sympa, le trailer cinématique, là c'était, mais il n'y avait rien de gameplay. Et j'irais même jusqu'à dire que, à part les deux premières minutes, on a vu une séquence de montage de gameplay du premier jeu de cette conférence. Il y avait pas de gameplay en fait, et c'était un tunnel. C'est vrai que c'est bien les tunnels de trailer, mais j'ai l'impression que dans les cas où c'est vraiment bien fait, où on nous garde un bon souvenir, il y a quand même des respirations avec un peu de gameplay ou un peu de quelque chose d'autre, tu vois. Là, c'était vraiment une demi-heure de trailer non-stop qui, en plus... Et du coup, au bout d'un moment, ils se ressemblaient tous, quoi. Moi, j'avais du mal à me souvenir de ce que j'avais vu après la demi-heure, en particulier peut-être parce qu'il semble qu'il y a quand même du positif dans tout ça, mais j'ai l'impression que toute la puissance graphique qui est à la disposition des développeurs là sur cette présentation, ils l'ont tous mise à trouver des moyens de réaliser les pires visions cauchemardesques d'horreur qu'ils avaient dans la tête. Tu vois, c'était tous des films d'horreur.
Et moi, c'est ça que j'aime,
les trucs.
Mais ouais, non, mais je suis d'accord. C'est clair que il faut aimer les univers torturés entre The Medium, entre Scorn, entre Bloodline, Vampire, etc. C'est que soit un futur merdique, soit de l'horreur, etc.
Mais de l'horreur, pure horreur, quoi.
Et moi j'adore ça, donc je suis très content d'avoir ça. Par contre, c'est vrai que si tu veux de la légèreté, je sais pas si tu veux rentrer dans le détail des jeux après, mais il y a quand même des trucs un peu plus sympas qui étaient montrés, mais en termes de...
Je vais juste dire un dernier truc pour finir de parler de l'occasion manquée. On a eu dans le Slack des Patriotes un long débat ensuite, juste après, sur le label optimisé pour Series X. Et on a eu un long débat là-dessus pour savoir est-ce que c'est un truc important, est-ce que ça veut dire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, ma conclusion, c'est que oui, bien sûr, c'est intéressant d'avoir un label pour savoir si le jeu va tirer parti des capacités supérieures de la console. Étant donné l'écosystème que développe Microsoft, maintenant les frontières sont un peu floutées, mais donc il est important de savoir si le jeu est juste un portage Xbox One qui va être à peu près pareil que sur Xbox One, ou si ça va être un jeu qui est vraiment optimisé pour Series X. Donc un label est important. Le problème, et ça je l'ai constaté ensuite, c'est qu'ils l'ont très mal utilisé, ce label. On a vu la liste qui est apparue sur le site de Microsoft après, et dans la liste, on voit que certains jeux qui sont notés comme optimisés pour Series X n'ont en fait pas vraiment de capacité graphique en plus. Ils n'ont pas la 4K, ils n'ont pas le HDR, on ne sait pas s'ils auront du ray tracing, ils n'ont que le Smart Delivery qui est la possibilité d'acheter le jeu une fois et donc de le télécharger en différentes versions.
Ça, par contre, on ne peut pas leur retirer, que je trouve que c'est vraiment... Et c'est pas étonnant, parce que c'est ce qu'ils font maintenant depuis longtemps avec le PC et la console. J'aime beaucoup ce fait de, maintenant, t'achètes un jeu, tu l'as sur trois plateformes. Tu l'as sur
non, mais bien sûr. PC, mais pour moi...
Et c'est quand même chouette, il faut quand même relever ça...
Non, mais évidemment, ça c'est évidemment, je veux acheter mes jeux une fois et l'avoir sur les plusieurs plateformes, et comme je le disais il y a quelques temps déjà, ça va obliger Sony à faire la même chose, c'est assez certain, et évidemment c'est une bonne chose. Mais pour le cas du label optimisé pour Series X, ça veut dire qu'il y a des jeux qui ont le label, qui sont pas 4K et qui sont pas HDR, donc c'est un peu bizarre, et en plus, il a été révélé, je finis là-dessus, il a été révélé sur des gens qui ont fait sur Reset, le forum bien connu, des toutes petites recherches, des déclarations officielles des développeurs, il y a différents jeux, genre deux ou trois jeux, qui sont des exclusifs série X ou des exclusifs Xbox en même temps. Et ils l'ont à aucun moment mentionné dans le Insider. Alors, est-ce que c'est parce que ils ont dit pendant des mois ouais on est pour l'ouverture, on veut que les gens puissent jouer où ils veulent machin, et maintenant tout à coup ils se mettent à avoir des exclusifs? Peut-être, mais il n'empêche que c'est une force marketing et un argument
pour moi. Il y a eu un loupé de com là-dessus. Enfin, je sais pas, pardon, je sais pas si t'as fini. Mais,
si, vas-y, j'ai assez parlé.
Il y a eu un loupé de com là-dessus parce que dans ce qu'on comprenait jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, il n'y aurait pas d'exclusivité Series X pure pendant un an ou deux. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ça concerne essentiellement les jeux first party, les Halo, les Gears, etc.
Ça, c'était clair pour moi. Hein.
Ça, c'est... Ouais, mais juste... et par exemple, nous sur JV.com, quand on a reçu les communiqués de presse concernant ces fameux jeux exclusifs Series X, donc aujourd'hui c'est par exemple The Medium, c'est Scorn également qui est exclusif Series X, et peut-être un autre jeu, mais déjà je pense à ces deux-là. C'est marqué dans le communiqué de presse que c'est exclusif. Et c'est vrai que ça a été mal dit pendant le Inside Xbox. Et moi je voudrais un petit peu revenir sur le optimisé pour Series, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'Inside Xbox, cette semaine, c'était plutôt intéressant, on a eu des interviews avec des développeurs qui bossent sur les jeux. On a eu des interviews avec les gens de The Medium, on a eu des interviews avec les gens de Deep Silver qui font Chorus, qui est un jeu qui a été annoncé, un shooter spatial. Et on a eu une interview avec Jason Ronald, qui est un peu le gars chez Microsoft qui s'occupe de gérer les éditeurs tiers, enfin les third parties sur Xbox. Et en fait, dans ce qu'on a compris, c'est que notamment sur certains jeux, effectivement, typiquement sur Chorus, je lui ai posé la question en disant qu'est-ce que ça va changer pour vous. Il me dit effectivement sur Chorus, enfin en gros, optimisé pour Series X, pour lui, ça veut dire que la base reste la même, le code du jeu reste le même, mais effectivement, tu peux profiter, mais c'est pas garanti pour tous les jeux, des features propres à la Series X. Et par exemple sur Chorus, ils m'ont expliqué que le ray tracing sera possible sur ce jeu-là. Après, encore une fois, le ray tracing, c'est facile à dire, mais ça s'implémente pas comme ça en un claquement de doigts, tu vois. Il y aura aussi et par contre, ils ont tous insisté et ça c'est clair que c'est l'argument qui revient tout le temps, c'est que l'apport du SSD change énormément de choses dans l'expérience de jeu. Par exemple, c'est pas juste des temps de chargement réduits ou invisibles. C'est par exemple sur un jeu comme Chorus, il m'a expliqué tous les éléments qui sont dans le fond. C'est un truc qui se passe dans l'espace, donc tous les éléments qui sont dans le fond, les débris spatiaux, etc. Sur quelque chose qui est grâce à la techno SSD qu'il y a sur Xbox, mais aussi sur PS5, on le rappelle, t'as beaucoup moins d'éléments qui apparaissent au dernier moment. Tu sais ce qu'on appelle le clipping et ce genre de choses, quoi. Donc ça, typiquement, c'est des choses qui sont possibles que sur une Series X ou une PS5. Donc ça fait partie des petites différences comme ça. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que là, les jeux sont pas encore prêts, en fait. C'est des jeux qui sortiront au mieux fin 2020 au moment de la console. Donc en fait, les features propres à la Series X, elles sont pas encore prêtes. Donc je pense qu'eux-mêmes, les développeurs, ne savent pas encore complètement ce que ça veut dire, en fait, optimiser pour Series X. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce que ça veut dire, ce que ça va apporter.
Bah, disons qu'il pourrait dire, si on a 4K, je ne parle même pas du 60 FPS parce que ça, c'est une autre question, mais si on peut... Enfin, ça pourrait être une autre question, mais admettons, des gens, si on dit 4K, Ray Tracing et HDR, on pourrait dire, bon, au moins, vous avez ça. Après, évidemment, c'est subjectif. Le Ray Tracing, ça dépend comment il est implémenté. Ça peut être 3 sources de lumière qui sont implémentées à la va-vite et voilà. Le HDR, pareil, il peut être fait plus ou moins bien. Mais... Il n'empêche, si, quelle que soit la subjectivité du label, moi je pense qu'elle est quand même intéressante à avoir si elle est bien faite. Et oui, dans tous les cas, vu l'écosystème de Microsoft aujourd'hui, il faut un label, parce que comment tu vas savoir, c'est pas un jeu Series X, c'est pas un jeu qui est uniquement Series X, c'est un jeu qui est disponible sur plein de plateformes. Donc il faut savoir si oui ou non il va tirer parti des capacités de la console. Bref.
Et ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir comparer, par exemple, un Assassin's Creed sur Xbox One et un Assassin's Creed sur Series X, vraiment à quoi ça va ressembler, quelles vont être les différences. C'est hyper important. Parce que après je me fais pas d'illusions aussi. Mine de rien, c'était pareil sur la génération d'avant.
Sur toutes les générations.
Qui sont sorties. Ouais, bien sûr. T'as des Assassin's Creed qui étaient sortis à la fois, je me souviens d'un Assassin's Creed, je sais plus lequel c'est, qui était cross-gen, qui était sorti sur Xbox 360 et Xbox One. C'était un truc genre avec des navires, là, je sais plus lequel.
C'était Black Flag, non? C'était peut-être Black Flag.
Non, c'était pas Black Flag, c'était un Assassin's Creed un peu mineur, entre guillemets. Et je me souviens que c'était pas
ça,
très
change pas grand chose. Bien sûr. Voilà. Bah, ça, c'est sûr que pendant les deux premières années, les jeux et surtout les jeux cross-gen, Bon, ils rajoutent quelques rayons de lumière, ils font un petit peu plus de polygones, c'est pas la fin du monde, c'est pas incroyable.
Et il faut pas se leurrer, c'est toujours comme ça au début d'une génération de consoles. La première année, t'es pas complètement mind blown par ce que tu vois, à part peut-être une ou deux exclus. Qu'un Halo Infinite va être super propre, il va être super impressionnant, mais il le sera aussi sur Xbox One. Donc voilà, je pense effectivement, faut pas trop non plus attendre à une claque technique, en tout cas la première année.
Oui, mais il y a quand même, tu sais, quand tu fais tes démos, il y a quand même des trucs que tu peux... Là, c'était, mine de rien, la première fois qu'on a une vraie révélation complète et contrôlée de ce, à quoi va ressembler la nouvelle génération. Et quand même, alors peut-être que c'était du flan les années précédentes, mais il n'y a pas que, même pas que la question des graphismes. Comme je le disais, sur tous ces jeux, on ne sait même pas vraiment ce que ça va être. Il n'y avait pas de séquence de gameplay pour quasiment aucun, mais... Enfin bon, bref, on a dit ce qu'on voulait dire sur cet aspect de la présentation. Il y avait quand même des choses positives et je précise, avant qu'on parle un tout petit peu des jeux qui nous ont marqués, je précise quand même que tout ça, même si moi je trouve que c'est une occasion manquée ou une fausse note, tout ça n'est pas majeur dans la communication. C'est un truc qui peut complètement être rattrapé dans les semaines et les mois à venir. Il y a largement le temps de nous montrer des choses beaucoup plus excitantes et je pense pas que ça spécifiquement... impactera la position de Microsoft dans le combat à venir, ça n'aura un impact que si le reste ne suit pas. Mais,
Surtout que là, on a beau dire, mais au moins Microsoft, ils balancent des trucs, tu vois. C'est vrai que Sony, sur la PS5, pour le moment, ils y vont vraiment à tâtons, en termes de communication, en termes de montrer des jeux, tout simplement. Et alors, il y a sans doute plein de raisons, et j'ai entièrement confiance dans le fait que quand ils vont montrer des jeux, on va sûrement voir des trucs chouettes. Voilà, ça va arriver. Mais c'est vrai que Microsoft, ils prennent les devants, ils se plantent un peu sur certains trucs, ça je le reconnais. Mais je reconnais aussi qu'ils ont envie d'être un peu généreux, entre guillemets, en termes de on vous montre des trucs. On ne fait pas forcément de la bonne façon. Ouais, ok, il y a des ratés, mais au moins, ils montrent des trucs et c'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, c'est bien, tu vois.
Je suis tout à fait d'accord. Et je dis depuis maintenant quelques semaines, je trouve que clairement, Sony a raté la fenêtre à tel point que ça commence à leur porter préjudice, je trouve. Alors là encore, c'est rattrapable parce que jusqu'à ce qu'on ait vu des jeux, la messe n'est pas dite. Mais là, je trouve qu'ils avaient une occasion chez... c'est exactement ce que je disais. Ils avaient une occasion chez Microsoft de prendre encore... plus d'avance, et je trouve qu'elle n'a pas vraiment été, ils n'ont pas su la saisir. Mais,
je suis d'accord.
Comme on le disait, il y avait quand même plein de jeux qui ont été présentés, même si certains n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Je trouve que Vampire the Masquerade Bloodlines 2, par exemple, était assez moche. Il y a aussi eu des trucs qui étaient assez impressionnants, même si c'était que des trucs d'horreur. Scorn, par exemple, m'a fait faire des cauchemars. C'était tellement beau et bien fait, et c'était une esthétique genre Alien...
Moi franchement jusqu'à la fin du
t'as trailer, pensé que c'était Alien ouais.
Je pensais que c'était un jeu Alien parce que c'est hallucinant comme c'est une inspiration au-delà d'Alien. C'est même H.R. Giger, donc le designer un peu de l'univers d'Alien d'origine, qui avait un univers très torturé. C'est vraiment Giger le jeu, quoi. Et en même temps c'est un univers qui m'attire énormément, mais par contre effectivement on sait pas ce que ça va être. Voilà. A priori c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps. J'ai lu pas mal d'infos là-dessus. C'est un jeu vraiment qui a eu énormément de temps de développement et qui est un peu compliqué. Donc a priori ça sort enfin sur Xbox, et c'est une exclu, donc encore une fois je leur ai dit Xbox Series X, PC, ça fait partie de ces rares jeux qui sortiront pas sur Xbox One et même pas sur PS5 a priori.
Il sera sur le Game Pass, donc ça, si j'ai bien compris, c'est une exclue. Il y a The Ascent qui est aussi une exclue, et The Medium, comme tu l'avais dit. Je crois qu'il y a deux exclus totales, et The Medium, c'est une exclue temporaire. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. Je crois, ouais. Scord, visiblement, t'as plu. Parlons un petit peu plus, de manière un peu plus positive. Qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça? Qu'est-ce que ça t'a évoqué?
Moi, je retiens les trucs les plus glauques de la présentation. Non, franchement, moi, The Medium me branche énormément parce que tout simplement pour les gens qui sont derrière, en fait. C'est-à-dire que c'est le studio, c'est Bloober Team, le studio, qui a fait déjà des jeux d'horreur qui sont pas tous parfaits, pas réussis, mais qu'on fait des jeux comme Observer, qui est vraiment un excellent jeu d'horreur, enfin un peu futuriste, Layers of Fear et Blair Witch, qui était pas mal du tout. Et en plus, ils se sont associés à la bande-son avec Akira Yamaoka, donc le compositeur de Silent Hill, en tout cas des quatre premiers Silent Hill, quelqu'un que j'adore. Et clairement, quand ils parlent de The Medium et quand ils montrent The Medium, ils disent, nous, notre inspiration, c'est Silent Hill 2, qui est l'un des meilleurs, enfin, qui est un de mes jeux préférés. Et donc je suis plutôt content, parce qu'en fait, Bluebird Team, c'est un studio qui est pareil, c'est un petit studio polonais. Je ne sais pas comment ils sont, mais ça reste un petit studio. Et à chaque jeu, en fait, ils s'améliorent un peu plus. Et là, je me dis que, ah, voilà, avec ce projet-là, qui a l'air d'être... Voilà, c'est leur projet un peu le plus ambitieux jusqu'à présent. Donc vraiment, j'ai très très envie de suivre le truc. Donc c'est vraiment le jeu qui m'intéresse le plus. Bloodlines 2, je ne sais pas quoi en penser, parce qu'autant j'ai extrêmement, je suis vraiment extrêmement intéressé par l'univers, par les jeux, parce que j'aime bien les jeux d'avant, les jeux Vampire et la Mascarade, c'est adapté du jeu de rôle. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est pas terrible, visuellement en tout cas. Et,
ouais,
et
c'est pas terrible graphiquement, mais le jeu.
Bah, graphiquement, voilà. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, ça fait pas tout.
Je le notais parce que c'était dans la. C'était dans le contexte de cette présentation de la next gen, donc forcément ça dénote. Bon, à part ça, ça ne veut pas dire que le jeu sera pas bien, quoi.
Ouais, mais après les previews qu'il y avait déjà eu l'année dernière sur les salons et tout n'étaient pas ultra enthousiastes. Donc j'espère que ça va pas être raté, mais j'ai un peu peur. Bon, moi je retiens Scorn aussi pour l'univers, mais pareil, je voudrais savoir ce que c'est.
Excuse-moi, ouais. je marque une pause sur Scorn encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la présentation. Vraiment, Scorn, c'est celui dont on sait le moins de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a vu que des gros plans de parties osseuses ou de parties phalliques ou osseuses et ou osseuses d'anatomie, j'en sais, limite osseux et limite bio, je sais pas, organique. Et bon, c'est très alien.
Biomécanique plutôt.
C'est ça. Et on a vu donc des gros plans de ces trucs. Ça pose l'ambiance clairement, mais on n'a aucune idée de ce qu'est le jeu. Mais aucune. On ne sait pas si c'est.
A priori, on sait que c'est un jeu à la première personne.
D'accord, bon bah voilà.
C'est à peu près ça qu'on sait. Et moi, en fait, j'ai très peur, parce que je ne me souviens plus du nom de ce jeu, mais il y avait un jeu comme ça qui se passait en enfer, qui avait une identité très très forte, et au final, ça a été un des pires jeux de l'année. J'ai même oublié comment ça s'appelait, mais bon, bref, c'était sorti l'année dernière. A priori, si Microsoft l'a mis en avant, je me dis, bon, ça ne peut pas être totalement raté, mais bon, en tout cas, l'univers me parle, et ça, c'est cool. Alors juste, effectivement, moi The Ascent, pareil, trailer, au début, tu vois, putain, tu dis trop bien, univers cyberpunk, ça a l'air assez glauque dans une ville et tout, moi, c'est ma cam. Et puis au final, ça a l'air d'être juste, entre guillemets, un top-down shooter assez classique. C'est un jeu d'action vu du dessus, où tu diriges un personnage, où tu vas tirer sur des trucs, avec les deux, ou un twin-stick shooter, c'est ce qu'on appelle ça. Donc, bah, du coup, voilà, je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a un univers incroyable derrière pour juste, entre guillemets, un jeu d'arcade assez, assez basique. Peut-être que je me trompe, mais bon.
Je crois qu'on est vraiment dans la position difficile où, comme au début de chaque génération, pour que les gens comprennent bien, le problème, c'est que les développeurs tiers en particulier, ils ont eu les kits de développement il y a quoi, un an, quelque chose comme ça. Alors, a priori.
J'ai eu l'info, je leur ai posé la question chez Deep Silver notamment, ils ont eu les kits au début de l'année seulement. Ils ont eu les kits au début de l'année, en tout cas pour la Xbox Series X, et a priori ils ont eu les kits PS5 après seulement, donc sur PS5 en tout cas, voilà.
Ouais, non, mais donc on peut tout à fait imaginer que, en particulier, les studios tiers ont eu très très peu de temps pour développer. Alors tu peux imaginer faire des bases sur PC, mais c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, en particulier pour ces consoles qui ont toutes des SSD, etc., etc. Donc le point positif à retenir de ça, c'est que s'ils ont pu faire déjà des trucs qui ressemblaient à quelque chose en 4 mois, ils ont encore 4 mois de plus. Donc ça sera 2 fois mieux ce qu'on va voir avant la sortie.
Et
je plaisante à peine, quoi. C'était très très court pour sortir des trucs.
Et moi, ce qui ressort d'un peu des discussions que j'ai eu avec eux, c'est que l'avantage aussi, c'est que c'est un environnement ultra familier, accueillant, quoi. C'est DirectX 12, c'est la base du PC. Je veux dire, si tu développes sur PC, développer sur Series X, a priori, c'est très facile, en fait. Donc ça, c'est cool. Moi, juste pour revenir, c'est vrai qu'il y a un autre jeu qui a l'air un peu moins glauque qui m'intéresse, c'est Call of the Sea, que je trouve qu'il y a une vraie proposition artistique que j'aime bien. En plus, Rofuri, c'est un éditeur assez cool qui fait des jeux. C'est des genres. En fait, c'est un peu comme Devolver, Rofuri, quoi. Ils éditent des indés, quoi, tu vois. Et souvent, ça donne des projets assez cool. Donc voilà.
Bah, je dirais, moi, pour conclure, je vais parler d'un jeu qui m'a plu. C'est le tout premier que je mentionnais tout à l'heure, Bright Memory Infinite, qui, pour lui, a l'air d'un truc, un FPS hyper dynamique où on doit, comment dire, allier les armes de tir et des armes genre des fouets, des chaînes qui vont ramener les ennemis à nous, des épées pour les taper en l'air quand on les a ramenés à nous. Enfin, ça a l'air d'être un truc un petit peu technique, mais FPS marrant. Le seul truc qui m'a fait prendre un pas de recul, c'est le fait que c'est développé par une seule personne. Ce qui, du coup, alors ça n'enlève rien à l'attrait du jeu, mais tout de suite, l'ampleur, le scope du jeu est forcément limité si c'est une seule personne. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien.
Une seule personne.
Ouais. Tu te rends compte? Et pourtant,
je me rends compte que j'avais raté ce trailer parce que je suis arrivé un tout petit peu après le début. C'était un des premiers jeux montrés, non?
Ouais, c'était le premier.
Je l'ai raté, je suis en train de regarder. Si c'est pour une seule personne, c'est quand même.
C'est dingue, hein. C'est ce que j'ai comprendre de ce qu'il disait. Et le dernier truc positif, c'est que cette formule est évidemment bien meilleure que les Inside Xbox dont je me moquais à chaque fois avec leur foule en délire qui criait, qui faisait ouais à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche. Donc là, s'il reste sur cette formule, non mais visiblement ils changent la formule de pour de bon et ils en auront un par mois sur cette formule même quand le confinement sera terminé. Donc
ils ont annoncé un rendez-vous mensuel. C'est ça. C'est bien.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, une petite pause avant de continuer. Je voudrais juste vous rappeler que Patreon existe et que Patreon, c'est bien. À quoi ça sert Patreon? Ça sert à soutenir l'émission. Et si vous l'appréciez, eh ben peut-être que vous devriez penser à venir sur Patreon pour la soutenir. Pourquoi? Parce qu'une émission qui n'est pas soutenue, eh ben c'est une émission qui est différente. Et si vous appréciez ce qu'on fait, la manière dont on le fait pour continuer à exister, eh ben on a besoin de votre soutien. Donc, ça prend vraiment 2 minutes et vous pouvez choisir. Hein, vous donnez le prix d'une bière, le prix d'un café, le prix de ce que vous voulez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Pour soutenir, c'est en... 2 minutes, c'est plié. Et ça aide énormément. Non seulement ça aide énormément, mais en plus, c'est essentiel pour l'existence de l'émission. Comme je le dis souvent, si vous n'êtes pas en ce moment devant votre ordinateur, alors si vous êtes devant votre ordinateur, il y a les liens dans les notes de l'émission. Alors vous allez directement sur patreon.com/rdvjeu, voilà, c'est facile. Mais si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous pouvez, la prochaine fois que vous lâchez vos clés dans le bol quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez à la maison, ou alors la prochaine fois que vous allez à votre frigo, c'est un petit peu plus confinement compatible, la prochaine fois que vous allez à votre frigo, vous ouvrez la porte du frigo, vous prenez votre bouteille d'eau et là vous dites « Ah, Patrick ! Ah, Patrick ! Est-ce que j'ai pensé à soutenir Patrick ?» Bah non, bah alors j'y vais. Et vous prenez votre verre d'eau et vous allez sur votre ordinateur, patreon.com/rdvjeu, et hop, vous soutenez. Et c'est super cool parce que vous avez droit à plein de petits bonus sympathiques et vous avez la fierté de soutenir l'émission. Donc un grand, grand merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent déjà. Bah vous n'entendez pas cette partie parce que vous avez droit à un flux privé qui n'a pas les pubs et les promos. Donc, je vous remercie auprès des auditeurs qui, eux, ne soutiennent pas l'émission. Et c'est grâce à vous que eux peuvent avoir cette émission. Donc, un grand merci à vous tous et merci à ceux qui choisiront d'aller sur patreon.com/rdvjeu pour soutenir. Merci, merci. Alors donc, on continue avec plein de petites news, allez, en rafale sur PlayStation 5 et Xbox. Donc, Microsoft a dit qu'il comptait toujours sortir la console, la série X, cette année, mais peut-être que les jeux, eux, risqueraient d'être affectés par la pandémie. Donc, à voir. A priori, moi, je doute qu'ils repoussent Infinite. Je pense à Halo Infinite, bien sûr. Je doute qu'ils repoussent ça, mais qui sait.
Ils ont confirmé que c'était un jeu de lancement, Halo Infinite
Je crois, oui.
C'est possible, hein, mais... Juste, tiens, je peux faire une mini-parenthèse, pas breaking news, mais il y a Aaron Greenberg ce matin, justement, sur Twitter, le directeur marketing d'Xbox, qui s'est un peu, en gros, excusé, en fait, du fait qu'ils se sont un peu plantés en termes de com, et qu'ils avaient trop dit qu'il y aurait du gameplay, etc., alors qu'effectivement, ils ont compris que, bon, tu sens que les retours n'étaient pas très bons par rapport à ça, et t'as Aaron Greenberg, sur Twitter, qui a dit clairement, oui, ok, on a compris qu'on avait un peu merdé sur la com, et on arrêtera de vous faire espérer des trucs qu'on n'a pas prévu de vous montrer, quoi. Donc,
tu sais quoi,
c'est intéressant, ça.
Les choses vont tellement mieux quand t'as un petit mot d'excuse des personnes en question. C'est incroyable.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Et puis le fait, bon, c'est pas que j'exige des excuses de Microsoft, c'est juste que tu dis, ah ok, donc ils en sont conscients, d'une part, ça veut dire qu'on n'a pas totalement tort a priori non plus, et que surtout, peut-être qu'ils en tireront les leçons pour la prochaine fois, ce qui est au final positif.
Oui, j'espère. Ouais.
Autre chose, on parlait justement du silence de Sony, et ben il semblerait que la PlayStation 5 soit présentée enfin le 4 juin, donc on est à moins d'un mois, il serait temps, vous me direz, je pense pas qu'ils peuvent attendre beaucoup plus longtemps, mais ça serait le 4 juin qu'elle devrait enfin être présentée, c'est la dernière rumeur du moment, ça serait en plus cohérent par rapport à la date précédente de sortie de Last of Us 2. Mais bon, Last of Us 2, Dieu merci, a une nouvelle date de sortie. On avait peur, et moi en particulier, j'avais peur que ça soit recalé à la sortie de la PlayStation 5, que ça soit une sorte de sortie simultanée. Finalement, Sony a décidé de sortir The Last of Us 2 le 19 juin. Et moi, mon explication, qui est une totale supputation, c'est qu'il se disait peut-être qu'il faut attendre, comme on le disait... à l'épisode précédent, je crois, ils auraient voulu attendre que tous les magasins rouvrent pour pouvoir en vendre autant que possible, parce que oui, il y a quand même des gens qui l'achèteraient uniquement en physique. Tous les acheteurs physiques ne se seraient pas reportés sur le numérique. Mais ensuite, ils se sont rendus compte que ça voudrait dire il faut attendre jusqu'en genre mi-2021. Donc, ils se sont dit, on n'a pas le choix. Moi, c'est ce que j'imagine. Eux, ils disent, réseaux logistiques sont un peu rétablis, donc on peut le faire. Voilà, et Ghost of Tsushima, ça sera le 26 juillet, je crois, fin juillet. Donc, un petit mois entre les deux. Et on a des rumeurs encore, je te donne la parole juste après. On a des rumeurs sur Horizon Zero Dawn qui aurait deux ou trois titres sur PlayStation 5. Une trilogie, donc, qui compléterait... deux titres pour compléter la trilogie commencée par le Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4. Et un en plus, possiblement, avec du focalisé sur la coop. C'est vrai qu'un jeu de ce type, ça pourrait tout à fait être adapté à un truc, je sais pas, peut-être Monster Hunter ou quelque chose de complètement différent, mais visiblement, ils voulaient intégrer la coop dès le début et ils l'ont pas fait parce que c'était un peu trop ambitieux pour le premier jeu. Donc, il est pas très surprenant que Sony table sur la licence Horizon Zero Dawn, vu l'énorme succès que ça a été.
Ouais, c'est clair.
Et puis enfin, il y a des prototypes de versions de manettes de réalité virtuelle des ingénieurs de Sony au Japon qui montrent en fait des trucs un petit peu comparables au Valve Index où ça repère vraiment tous les doigts de la main, mais encore plus précisément que le Valve Index. C'est très impressionnant, mais c'est vraiment des trucs de recherche. C'est pas du tout un produit qui serait prêt à être commercialisé. C'est vraiment de la recherche pure. On est à 2 ans minimum d'un truc commercialisé. Ça fait beaucoup de choses. Je te laisse la parole.
Non, ce qui est à peu près sûr, c'est que s'ils sortent une nouvelle version du PSVR pour la PS5, ils peuvent pas se permettre de garder les PlayStation Move, qui est une techno maintenant qui a quoi, 5, 6, 7 ans. Enfin, voilà.
Plus,
donc, effectivement, et aujourd'hui, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, maintenant, c'est le hand tracking, donc comme sur le Valve Index notamment. Et clairement, il faut qu'ils aillent là-dedans. Donc ça, c'est tant mieux, mais c'est pas étonnant qu'ils bossent là-dessus. Pour Horizon, moi, je vois bien ça, peut-être. Je vois bien un Horizon en tant que jeu de lancement, si, avec beaucoup d'espoir. Parce qu'en plus, Horizon, tu vois, c'est une grosse licence, mais ce n'est pas non plus un jeu Naughty Dog, ce n'est pas non plus un God of War, tu vois. C'est un truc à mi-chemin. qui peut être suffisamment bon pour un peu, suffisamment bon et faire envie pour que ça fasse acheter des consoles, tout en se gardant des cartouches pour des très 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 très, très grosses licences, leur licence encore plus grosse pour l'année d'après ou pour dans deux ans. Donc un Horizon version, enfin Horizon 2 pour le lancement de la PS5, ce serait pas étonnant. Ouais. Assez
je vais dire, s'ils annoncent Horizon 2, ou comme j'aime à le dire, Horizon One Down, parce que tu vois, après 0, ouais, il y a 1, tu vois. s'ils annoncent Horizon One Down pour le lancement, c'est vraiment une grosse cartouche, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des gros jeux lancés avec la console. Je crois que le dernier, ça devait être Zelda avec la Switch. Et encore, c'était un truc un peu particulier, ouais, parce qu'il était à cheval sur les deux, sur les deux consoles. Les rumeurs disent que le travail sur le deuxième Horizon a commencé dès la fin du premier, ce qui n'est pas surprenant du tout. Donc, ça serait possible. Ouais. C'est pas garanti, mais ça serait possible.
Et puis, faut se rappeler un truc, c'est que l'un des jeux de lancement de la PS4, c'était Killzone, qui était un jeu Guerrilla Games, du même studio. Fait, ouais. Donc bon, peut-être que voilà, ils ont peut-être l'habitude de faire des jeux de lancement, donc ce serait pas déconnant. Après, peut-être qu'on se plante, mais ouais. Après, moi
ça rattraperait beaucoup de choses.
Voilà. Après, la PS5 présentée le 4 juin. Ce serait étonnant qu'il rate le début de l'été, quoi. Enfin, tu vois, en plus, c'est la période de l'E3, enfin, de l'équivalent de l'E3. Il va y avoir tout ce qui est Game Fest, il va y avoir plein de trucs. Ils ont besoin d'avoir leur événement, là, pour. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a eu, je suis désolé, c'est la conférence de Marc Cerny qui était sympathique, mais qui faisait cramer le cerveau et qui ne donnait pas envie, enfin, qui donnait pas envie aux joueurs, oui, aux joueurs, au grand public d'acheter une console. Donc, c'est pas possible, quoi.
Ah ouais, c'est sûr que si la présentation de Microsoft là avait été trop hypée par leur service, je crois que tu vois la conférence, ouais, de Cerny, c'était la même chose en 10 fois pire, quoi. Donc bon, voilà pour les petites choses à attendre. Tu parlais du Games Fest, du Summer Games Fest. On a eu l'annonce que le Tokyo Game Show et la Paris Games Week sont annulés. C'est pas si surprenant que ça. Dans le cas du Tokyo Game Show, ils ont dit qu'il y aurait quelque chose en ligne. C'est pas le cas pour la Paris Games Week, ce qui est compréhensible parce qu'il y a moins de choses montrables en ligne à cette période de l'année et dans le cadre de l'Occident. Au Japon, ils ont toujours des petits trucs dans la poche. Mais pour remplacer tout ça, il y a le Summer Game Fest. Alors, ça ne s'applique pas au Tokyo Game Show et au Paris Games Week, mais c'est une initiative étendue de Jeff Keighley, qui est le parrain des Game Awards, une des personnes qui est les plus... comment dire, les mieux connectés dans l'industrie du jeu vidéo, qui est bien placé pour faire quelque chose comme ça. Ce que ça sera, c'est 4 mois, donc ça commencera à un moment en mai, et ça durera jusqu'à août, et on imagine que c'est parce qu'il voulait faire le lien entre un événement de mai, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais également la partie de la Gamescom à laquelle il devait participer pour la soirée de lancement. Mais donc il y aura plusieurs, ça sera ponctué, les 4 mois seront ponctués de plusieurs conférences, d'annonces, de news, de démos jouables à télécharger, etc., etc., sous la bannière du Summer Game Fest. Donc, 4 mois de plusieurs événements différents, ce qui est plutôt sympathique. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est le plus gros candidat pour remplacer l'E3, on va dire. EA a annoncé son EA Play Live. On a aussi un rendez-vous le 11 juin pour plus d'infos sur Cyberpunk 2077. Enfin, tout ça commence à s'organiser. On ne sait pas si tout fera partie du Summer Game Fest. C'est possible. Mais cette bannière, pourquoi pas? Et puis, si ça nous permet de reproduire un petit peu cette joie du moment où tout le monde est hypé par le jeu vidéo et on se retrouve tous et on joue à décider qui a gagné, qui a perdu, et c'est vraiment ludique, quoi, et c'est marrant. Moi, ça me convient, quoi.
Ouais, c'est bien, parce que je pense que c'était ce qui est le mieux possible à faire là, vu les conditions et tout ça. Après, moi, je suis curieux de savoir quelle influence ça va avoir pour les autres années. C'est-à-dire que l'année prochaine, bon, si en étant optimiste que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse reprendre les salons, etc., est-ce que va y avoir à nouveau des salons? Est-ce qu'ils vont pas se dire, ah bah c'est l'impact en termes de vente, de marketing, etc., il est tout aussi bon et ça coûte 100 fois moins cher à organiser. Du coup, on va arrêter complètement les salons. Alors moi personnellement, je serais un peu triste parce que c'est quand même sympa. Et puis là, ok, c'est bien, c'est étalé sur un mois, mais Moi, j'adore cette effervescence de l'E3 où pendant une petite semaine, putain, c'est vraiment le truc. Tu regardes les conférences jusqu'à 3h du mat. Enfin, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc particulier. Là, ça va être dilué sur un mois complet. Alors, on va en avoir à foison, ça va être super.
Le Summer Game Fest, c'est 4 mois. Le Summer Game Fest, c'est 4 mois.
Enfin, t'imagines.
Et ouais, j'imagine qu'il y aura quand même une période autour de l'E3 où tout le monde va faire ses présentations. Il y a un effet d'aspiration, je crois, mais peut-être, on verra. Ouais. Bah, en tout cas, rumeur pour Sony, c'est le 4 juin. Le EA Play, c'est quand en juin ? C'est peut-être un peu plus tard, mais il y a Cyberpunk le 11 juin. Ça a l'air d'être concentré en juin quand même. Mais bon, à voir. C'est le 11 juin aussi, le EA Play. Donc, tu vois, c'est sur cette semaine-là, mais à voir.
Et voilà, donc et là, effectivement, il n'y a plus un seul salon physique. En fait, le seul salon, alors qui n'est pas vraiment du jeu vidéo, mais le seul salon tech qui est encore officiellement prévu, c'est le Computex de Taïwan, qui lui est toujours maintenu en septembre. Alors, je ne sais pas s'ils vont tenir jusque-là, parce que Taïwan est l'un des pays qui a été le moins touché par la pandémie, et l'île pour le coup. Mais est-ce qu'ils vont le maintenir ? Parce que qui va venir à part des Taïwanais, quoi, tu vois ? c'est étonnant, enfin.
Ouais, mais ils ont encore le temps. Attends, tu disais c'est dans combien de temps le Computex ?
C'est fin septembre. Ouais. C'est pas si lointain que ça. La Paris Games Week, c'est censé être après, tu vois.
Oui, donc, mais les conditions sont pas les mêmes. Les conditions sanitaires sont pas les mêmes en Europe et en.
Et puis le Computex a déjà été repoussé. Hein. Le Computex à la base devait se tenir en juin et a été repoussé et rapidement ils ont pris les devants. En fait, ils ont largement anticipé. Peut-être que la PGW. Le problème, c'est que la PGW peut pas être repoussée. Enfin, je veux dire, s'il repousse, il repousse l'année d'après, quoi. De base, c'était prévu pour octobre-novembre. Voilà.
Oui, tu peux pas faire une Paris Games Week quand. Et puis t'es au milieu
en décembre.
L'hiver où le risque de reprise de l'épidémie est le plus fort, donc
c'est pas possible. Donc non, voilà.
Bon, mais tu vois, pour un truc comme le Computex, si les conditions de la pandémie, enfin de l'épidémie locale à Taïwan sont plus douces, tant qu'à faire, autant le faire plus petit, local, plutôt que de rien faire du tout, même s'ils accueillent moins de gens de l'international. Ouais, évidemment que c'est pas les mêmes conditions, mais peut-être que pour eux, il vaut mieux faire un petit peu pour avoir un petit peu de business local et de présentation, plutôt que de rien faire du tout.
Bon, après, c'est pas un salon qui a un rayonnement international énorme. J'y suis déjà allé plusieurs fois, et clairement, cette année, dans tous les cas, j'y vais pas parce que les voyages sont... Dans ma boîte, seront un peu très très limités, mais clairement, je me vois mal y aller dans tous les cas, même si j'ai l'occasion.
Bon, bah voilà pour les grosses news dont on voulait vous parler. On va faire une petite pause pour vous parler des jeux auxquels on a joué. Et je vais commencer parce que j'ai arrêté de jouer à Final Fantasy VII dans un accès de folie. Je regardais les news sur la prochaine extension de World of Warcraft, Shadowlands, dont la bêta, l'alpha plutôt, a commencé. Et ça m'a un petit peu donné envie de jouer à WoW. Je me suis dit, bon, bah, je vais lancer. Il y a de la double XP en ce moment. Donc, je me suis dit, je vais aller leveler des persos qui ne sont pas encore au niveau max. Et puis, j'ai lancé quand même mon perso qui est au niveau max. Et bilan, depuis 2 semaines, je joue régulièrement. Alors, je joue... Oui et non, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je joue mon heure quotidienne sur World of Warcraft, généralement. Et bon, j'avoue que je me suis bien amusé, c'est bien sympathique. Je vais faire mon achievement pour avoir le vol dans la dernière extension, mais j'ai un petit peu replongé. J'ai aussi, comble de l'ironie, j'ai aussi joué à Destiny 2 encore, alors que j'ai Final Fantasy VII, que j'adore, qui est certainement mon jeu de l'année jusqu'à maintenant. J'ai encore relancer Destiny 2. Je crois que d'une certaine manière, ces deux jeux, c'est vraiment bon, comme souvent les jeux infinis pour les gens qui les apprécient, c'est des jeux qui sont tellement confortables, c'est vraiment la plus pure expression d'un truc qu'on dit souvent, c'est les jeux pantoufles. Tu viens, tu sais à quoi t'attendre, ça t'occupe suffisamment l'esprit. J'en parlais aux Patriotes dans le Q&A qu'on a fait il y a quelques jours. Comme ma femme le dit, c'est un petit peu comme du tricot. Ça t'occupe suffisamment l'esprit pour pas que tu stresses sur d'autres choses, mais c'est pas suffisamment exigeant intellectuellement pour que ça te fatigue. Donc c'est vraiment un truc mécanique que tu fais qui est sympa. Voilà, tu checkes des boîtes qui te donnent un petit peu de dopamine, donc tu te sens bien. Et puis voilà. Et j'ai joué un petit peu à ces deux jeux, surtout World of Warcraft. Et voilà j'ai joué aussi à deux autres petites choses dont on va parler, mais c'est essentiellement ça. Et je voulais le mentionner parce que cet aspect pas trop stressant et ça t'occupe assez l'esprit, je crois, est vraiment, vraiment fort pour ces jeux-là.
Je me demande s'il y a un autre jeu que WoW qui peut maintenir les joueurs depuis aussi longtemps, en fait. Enfin, à une échelle assez grosse, t'as encore des gens qui jouent à Ultima Online, tu vois, je pense, mais bon, c'est vraiment tout à minuscule par rapport à WoW, quoi. Enfin, WoW, c'est vraiment unique au monde, quoi. C'est incroyable, je trouve, cette longévité, quoi. Et cette façon qu'ils ont, ils ont réussi à retenir quand même, on sait pas combien ils ont d'abonnés, ça fait longtemps qu'ils communiquent plus là-dessus, mais ça se compte encore en millions, j'imagine. C'est fou, quoi. Enfin, je trouve ça...
Oui. Oui, mais c'est, tu sais, c'était right place, right time, right quality, parce qu'il était vraiment exceptionnel à l'époque. Mais maintenant, c'est l'avantage d'être un gagnant de ce genre de nouveaux horizons conquis, tu vois. Tu as tellement gens qui sont habitués. Quand je parle de l'aspect pantoufle, il y a plein de MMO qui sont super bien. Hein. Les gens vantent les qualités de FF14, qui a été largement amélioré ces dernières années encore. Il y a même The Elder Scrolls Online, qui est super bien selon certains.
Qui avait mal commencé et qui a vachement bien rebondi, quoi.
Ouais, complètement. Il y en a plein.
Il y a Eve Online qui est plus niche, mais qui a toujours une communauté très très active.
Ouais,
il y en a plein, bien sûr. Mais WoW, en termes d'échelle, il est vraiment au-dessus de tout le monde, quoi.
Complètement, complètement. Mais c'est parce qu'il a conquis les gens au début et maintenant les gens sont habitués. Donc tu veux tes pantoufles, mais tu veux pas aller apprendre comment fonctionne comment il s'appelle, pas Warframe, voilà. Tu veux pas aller apprendre comment fonctionne Warframe quand t'es stressé, que t'as envie de te détendre. Et pareil, je suis sûr que les gens qui jouent à d'autres jeux, peut-être encore que WoW a on-board peut-être un petit peu mieux que les autres, mais il n'empêche, tu veux tes pantoufles, t'as un jeu auquel t'as déjà joué, tu reprends plus ou moins les mêmes choses et puis t'es tranquille, quoi. Donc,
c'est clair.
Il y a un autre truc dont je veux parler, mais tu y as joué aussi et sans doute plus que moi, donc je te donne la parole. Quels sont, toi, tes jeux du moment ?
Mes jeux du moment, dans le dernier numéro que j'ai fait, c'était avec Pouillot, c'était celui qu'on avait fait avec Pouillot, je crois. J'avais dit que, bon, FF7, pourquoi pas, je verrai, si j'ai le temps, etc. Ce qui s'est avéré, c'est que assez rapidement, j'ai eu le jeu et je suis tombé dedans, mais comme ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé dedans.
Ah, tu vois.
Je me suis pris une claque de ma boule. Enfin, vraiment, pour le moment, c'est mon GOTY, c'est mon jeu de l'année. On verra ce que ça va donner. Mais c'est un jeu que j'ai adoré. Voilà, j'y ai passé 35 heures et je me suis. Et ça faisait très longtemps que, genre, je ne m'étais pas couché à 3 heures du mat parce que je voulais absolument finir un jeu, etc. Donc voilà, j'ai adoré FF7 Remake, mais voilà, ça commence à être ancien. Street of Rage 4. Qui est, lui, pour coup plus récent, excellente surprise, parce que honnêtement, j'étais assez attiré par le jeu, j'étais surtout attiré par la patte graphique, hein. Visuellement, c'est très 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 sympa, on s'éloigne forcément du jeu pixelisé pour un truc très dessiné, à la DA, c'est un monsieur qui s'appelle Ben Fiquet qui avait déjà participé au remake de Wonder Boy, qui était très cool. Mais par contre, là où j'attendais pas le jeu aussi réussi, c'était justement, tout simplement, sur le gameplay, en fait. C'est un vrai beat'em all très intelligent, très très précis, très 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 assez technique, assez difficile, mais qui réclame un véritable investissement, en fait. Et surtout, chaque personnage proposé se joue différemment, en fait. Donc tu peux vraiment avoir énormément de plaisir à refaire le jeu plusieurs fois. Là, j'en suis à mon deuxième run, hein. J'ai fini le jeu une première fois avec Cherry, qui est le personnage, et je trouve, le plus facile à prendre en main, parce que c'est le personnage le plus rapide, le plus nerveux. Et là, je suis en train de faire le jeu avec Blaze, et c'est un vrai plaisir de beat'em all en 2D à l'ancienne. Je suis vraiment très, 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 très agréablement surpris par Street of Rage 4, quoi.
Ouais, j'avoue que, alors justement, c'est celui-là dont je voulais parler, j'y ai joué aussi, j'ai pas joué autant que toi, j'ai joué une petite heure peut-être, et c'est d'ailleurs ce que je voulais dire avant même de parler du jeu lui-même, c'est vraiment typiquement le genre de jeu pour lequel il faut trouver un nom, c'est un jeu qui est sur Game Pass, et c'est un jeu que tu prends du plaisir, parfois même beaucoup de plaisir à jouer, mais que t'aurais sans doute jamais acheté, et du coup il faut trouver un nom pour ces jeux, et moi je propose, alors attention, hein, calembour de haute volée, je propose que ces jeux soient des jeux qui sont sur Game Pass, donc ce sont des jeux passables. Pas mal, non ? Je sens que tu es conquis.
Derrière que, Ouais, pas complètement, parce que le problème, c'est que passable, pour moi, ça, ça a quand même une connotation négative.
Non, mais il est passable, il est bien dans le Game Pass, tu vois. Moi, je ne l'aurais pas acheté, mais pour moi, c'est un jeu, tu vois, qui est... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais là, le calembour est trop bon, on ne peut pas le...
Mais oui, après, non, mais après, ce que je comprends tout à fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est par exemple, moi j'ai des potes là qui j'ai réussi à convertir au Game Pass, et j'ai un de mes potes, on s'est dit, tiens, mais putain, il y a Street of Rage 4 sur le Game Pass, du coup, il va y jouer, on va se faire une partie. Alors que moi, de base, c'est un genre que j'adore, le beat'em all en 2D, moi, par exemple, pour le taf, j'ai reçu un code sur PC, mais je l'ai racheté sur Switch parce que j'avais trop envie d'y jouer sur Switch. Tu vois. Du coup, je l'ai payé. Bon, après, en plus, il était à 22 euros, tu vois. C'est pas comme si c'était un jeu vendu 40 ou 50 euros. Ouais. Honnêtement, de toute façon, que ce soit sur le Game Pass ou sur Switch ou ailleurs, si vous êtes un tant soit peu amateur de Beat'em All en 2D, c'est vraiment... déjà, c'est un genre qui est très peu représenté maintenant. Il y a eu ça et il y a eu Mother Russia Blitz, notamment dans les trucs récents, mais qui a déjà au moins 2 ans. C'est vraiment un truc à essayer, quoi.
Ouais, et donc moi j'ai vraiment apprécié. C'est pas effectivement le terme passable est peut-être un petit peu péjoratif, mais c'est pas du tout un jeu qui m'a pas plu. J'ai passé un bon petit moment. C'est assez fort la manière dont ils réussissent à reproduire le souvenir qu'on a de ces jeux-là. Ouais. Parce que il y a d'ailleurs un petit niveau bonus qui est assez marrant, où c'est juste un petit boss, ça dure une minute, qui se passe dans les graphismes du jeu d'origine. Et c'est marrant parce que tu y joues, tu dis « Ah bah ouais, c'est Streets of Rage, quoi, c'est comme ça, à peu près, plus ou moins. » Bon, un peu moins beau, mais plus ou moins comme ça, non ? Et il te transporte dans ce niveau bonus qui est dans les graphismes de l'époque. Et là, vraiment, c'est « Ah oui, d'accord, non, ok, d'accord, alors c'était ça quand même. » Et en fait, le jeu, même dans les mécaniques, est hyper moderne et dans les graphismes.
Ouais,
dans
très tout, moderne.
Et pourtant, tu as l'impression que c'est hyper fidèle, un petit peu évolué de ce qu'étaient les jeux de l'époque. Et c'est vraiment une réussite assez grande réussite à ce niveau-là, quoi. Donc, ouais, c'est ça.
Je me retiens énormément de sortir entre tradition et modernité, mais on n'est pas loin. Non, mais dans le sens où ils ont réussi à garder effectivement le feeling du jeu d'époque, avec notamment le travail sur le son, sur les impacts, etc. T'as vraiment les effets sonores de l'époque, avec effectivement, ils ont rajouté énormément de coups spéciaux, de choses comme ça qui sont pas là juste pour en faire plus, tu vois, qui ont vraiment un intérêt, une utilité, et vraiment j'attendais pas le jeu là-dessus, tu vois. Je me suis dit, bon, au mieux ça va être un Street of Rage 2 avec des graphismes refaits, et ben non, en fait ils ont trouvé quand même quelque chose pour que ça ait un intérêt en 2020 pour un nouveau joueur, tu vois, pas juste pour un autre.
Ouais, c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment un bon jeu tout court, et pas juste un bon jeu parce qu'il est comme les bons jeux de l'époque. Sympa à jouer, même pour un jeu moderne. Et ça, c'est difficile de trouver cet équilibre, et ils ont réussi à très bien le trouver. Donc, pas mal du tout.
Exactement, oui.
Il y a un autre jeu
qui est et c'est une production française, hein, Cocorico.
C'est doté.
À moitié, je crois que ouais, mais je crois que c'est plusieurs studios, et notamment une partie c'est des Québécois, je crois, mais si je dis pas de bêtises.
D'accord. Bon, bref. D'ailleurs, à propos de plusieurs studios, tiens, juste une remarque qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu savais que sur Assassin's Creed Valhalla, c'est 14 studios, 14 ou 15 studios qui bossent ensemble?
Je savais qu'Ubisoft c'était devenu n'importe quoi, parce que d'ailleurs on sait plus parce qu'à une époque c'était Ubisoft Montréal qui faisait Assassin's Creed.
Montréal, mais ils ont l'aide de 14 studios supplémentaires.
Surréaliste.
Mais c'est invraisemblable.
C'est impressionnant la façon dont Ubi a des process de création dans le monde entier. En fait, je ne sais pas si c'est le seul à faire ça, mais à ce niveau-là, mais c'est incroyable, effectivement.
T'imagines la logistique pour faire travailler ensemble. C'est pas genre que tu as plein d'équipes qui travaillent sur les produits de ta société. C'est tu as plein d'équipes qui travaillent sur un jeu logistiquement, organisationnellement. C'est le genre de savoir-faire qu'ils ont dû monter sur des années et des années. Et s'ils réussissent à faire un jeu aussi cohérent, il n'y a pas de raison. Ça se trouve, Odyssey, c'était déjà genre 10 studios qui travaillaient dessus, je ne sais pas. Mais... Bref,
c'est possible. Ouais. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse très rapide. Ils ont précisé que Valhalla serait un peu moins long que Odyssey. Et c'est marrant parce que sur Twitter, j'ai vu plein de gens qui disaient « Ah, c'est une super nouvelle parce que Odyssey, c'est génial, mais c'est tellement long. » Moi, je l'ai pas fait Odyssey, mais toi, tu l'as fait.
Oui, je l'ai fait. J'ai tellement envie de le relancer là. J'étais à deux doigts d'acheter le DLC et j'ai passé, je sais pas, 60-80 heures dessus, quoi. Et c'est vraiment Odyssey qui m'a hypé sur la série. Et du coup, je suis tellement hypé sur Valhalla parce que j'ai tellement aimé Odyssey que je me suis mis à regarder les séries Vikings et oui. The Last Kingdom, les deux en même temps.
Ah oui, d'accord.
The Last Kingdom avec ma femme et Vikings.
T'as deux doigts de te laisser pousser les cheveux, te faire des tresses et de moustache.
C'est ça. Je vais raser sur les côtés, tu sais, et faire une tresse à la barbe. Ouais, ouais. Non, c'est... je suis Eivor for life. Ah tiens, d'ailleurs, ok. Parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Dernière, et après, on parle de Cloudpunk, promis. On parlait de Valhalla avec ma femme, puis qui m'a regardé, qui a regardé Odyssey pas mal, donc elle est intéressée par le truc. Et Viking et tout. Et je lui dis, ah ouais, donc le héros, c'est un, ça peut être un homme ou une femme, il est customisable, il s'appelle Eivor. Elle me dit, ah ouais, Eivor, ah oui, c'est vrai, tiens, j'y avais pas pensé, mais ça peut être un homme. C'est vrai que c'est un prénom mixte. Et je dis, ah ouais, d'accord, mais donc c'est un prénom de femme, Eivor. Elle me dit, ouais, plutôt, généralement. Et c'est quand même un prénom un peu vieillot, hein, je me dis. Et donc je me dis, ah, vieillot, genre, tu vois, c'est un truc médiéval, Childéric, je sais pas. Et elle me dit, non, c'est un prénom genre une nonne dans un orphelinat, tu vois, dans les années 70, quoi. Une vieille nonne de 60 ans dans les années 70, ça pourrait. Eivor, ouais, ça collerait bien, tu vois. Donc, donc mon image du gros viking méchant du trailer de Valhalla a tout de suite un petit peu changé.
Mais est-ce que c'est pas un indice sur l'Assassin's Creed suivant qui se passera dans un monastère avec une maille de nonne, tu vois?
Peut-être, ah, c'est possible.
Peut-être, hein, c'est vrai.
Donc, ouais, visiblement, c'est un nom genre années 30. Genre, l'équivalent chez nous, ça serait peut-être, je sais pas, Odette, tu vois, un truc du genre. Oui. Donc,
bon. Sœur Thérèse, Sœur Thérèse Francoff.
Donc, Assassin's Creed Odette, c'est peut-être.
Odette, ouais.
Bref, Cloudpunk. Bon.
Cloudpunk, ouais. Alors Cloudpunk, moi je l'ai terminé pas plus tard qu'hier, donc c'est tout frais. C'est un jeu dont j'avais peu entendu parler, c'est parce que j'ai reçu un communiqué de presse et que j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah dis donc, pourquoi pas. Alors juste pour résumer, c'est vraiment, comment vous l'expliquer? Vous voyez ce que c'est, tu vois ce que c'est qu'un walking simulator, ce qu'on appelle les walking simulators, c'est jeux très narratifs,
oui,
globalement il y a peu de gameplay, etc. Alors, en fait c'est quasiment un walking simulator dans un taxi. Parce qu'en fait tu joues le rôle d'une chauffeuse de taxi / livreuse qui bosse pour une compagnie dans un univers cyberpunk, mais alors cyberpunk genre ça crie Blade Runner par tous les ports. Et en fait tu te promènes dans la ville tout simplement et tu fais des courses, tu fais des livraisons, tu rencontres des personnages, tu parles avec des gens, tu fais des choix moraux réguliers qui pour le coup ont un vrai impact sur la fin du jeu, et ça c'est cool. Et c'est tout. Voilà, il y a pas de combat, il y a pas de boum boum, il y a pas de course poursuite, etc. C'est un jeu très très narratif où c'est vraiment un open world, parce qu'ils ont modélisé la ville comme un open world. Et la plus grande réussite des jeux, c'est que c'est ça en fait, c'est que la ville de Nivalis, donc ça se passe à Nivalis, la ville de Nivalis, elle est absolument magnifique. Je trouve qu'en termes de rendu, c'est super beau. C'est en fait c'est de la 3D hein, bien sûr, mais c'est un peu il y a un petit côté presque Minecraft, mais avec des éclairages très travaillés, etc. Donc ça mélange, voilà, t'as l'impression d'être dans une sorte de en fait c'est comme si la ville de Blade Runner avait été reproduite dans Minecraft, mais avec vraiment un vrai travail d'éclairage et d'ambiance, et ça rend super bien. Et en plus, il y a une bande son. Si vous aimez les nappes de synthé, le côté. Alors, ça ressemble plus à l'OST de Blade Runner 2049 qu'à l'OST de Blade Runner, le film d'origine hein, de Vangelis. Voilà, si vous aimez la synthwave et les synthés, ça va vous enchanter les oreilles. Par contre, il faut pas vous attendre à un jeu d'action, un jeu. Voilà, c'est un jeu très narratif, mais c'est globalement bien écrit, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Donc, voilà, c'est une expérience très particulière. Ça dure, je pense.
Allô ? Tu as disparu ?
Allô ?
Oui, tu as disparu l'espace d'un instant, mais tu es revenu. Allô ? La téléportation a fonctionné.
Ah, ça va, ouais. Je ne sais pas, ça a coupé quand ?
Ça a coupé quand tu disais... c'est
allô ?
Oui, non, mais je t'entends bien. Toi, tu ne m'entends plus ?
Tu m'entends. Non, oui, ça va, je t'entends, ça coupe un poil, mais bon, je continue. Donc, ouais, non, je disais juste que je trouvais ça un poil long pour ce que, malgré tout, pour ce que ça propose. À la fin, ça s'essouffle un petit peu, mais c'est vraiment
très intéressant.
C'est
combien de temps, tu disais ?
Moi, je l'ai fini en 7-8 heures.
D'accord.
7-8 heures de jeu, sachant que, voilà, c'est très narratif, donc ça aurait duré 2 heures de moins, ça ne m'aurait pas dérangé. Par contre, si vous êtes vraiment sensible aux univers cyberpunk, et c'est bête, mais pour patienter en attendant un Cyberpunk 2077 en termes d'ambiance, c'est vraiment très, très, très intéressant à jouer. Donc, intéressez-vous à ça. Encore une fois, je précise, parce que j'en ai parlé sur Twitter et j'ai eu des gens qui m'ont répondu qu'ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Ne vous attendez pas à un jeu d'action, c'est un jeu narratif avant tout, mais voilà.
Très bien, donc Cloudpunk, et bien sûr les noms de tous ces jeux seront dans les notes de l'épisode. Pour les dernières news un petit peu moins importantes, j'ai joué à un jeu qui n'est pas un jeu. J'ai joué à Fortnite en mode partie royale, à l'occasion de l'annonce des 350 millions de joueurs de Fortnite. Alors, c'est des comptes enregistrés, ce n'est pas des joueurs forcément actifs, mais c'est intéressant parce qu'ils en avaient 250 millions en mars de l'année dernière. Donc, ils ont ajouté 100 millions en à peu près un an, comme quoi la fièvre Fortnite ne se dément pas. Et en particulier, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu un concert de Travis Scott là. Ouais. 12,3 millions de joueurs en même temps. Alors, c'était dans le jeu et en streaming, et qui regardaient en streaming, je crois, mais 12,3 millions en même temps, c'est assez fou. C'est vraiment, ça cimente le statut dont on parle depuis longtemps de phénomène de société, mais pas juste comme World of Warcraft ou Minecraft, qui sont en eux-mêmes des phénomènes de société de leur époque, où il y en a d'autres. Mais là, c'est carrément, ça devient un phénomène qui s'intègre dans la société au sens large, avec des performances artistiques et culturelles qui en font partie. Enfin, et ils surfent sur cette vague encore plus avec le mode partie royale. T'as entendu parler de ce mode ou pas ?
Du tout. Je t'avoue, moi, Fortnite, c'est très loin au-dessus de mes considérations, mais
au-dessus ou en dessous, sois honnête.
En dessous, je suis pas.
Ça te passe au-dessus. Bah, en fait, partie royale, c'est. Vous savez, c'est en fait Fortnite est beaucoup utilisé comme le sont tous ces jeux sociaux, hein, comme un endroit pour faire un truc ensemble et pour discuter. Et ils surfent sur cette vague encore et ils ont lancé le mode partie royale où tu arrives sur une île qui est différente de l'île classique et où en fait il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat. C'est juste des endroits où il y a de la musique, où tu vas danser avec tes potes. Il y a des petits trucs à faire, mais genre c'est des parcours où il faut, comment dire, des trucs timés, où il faut passer à travers des cercles un petit peu, où il y a des véhicules et c'est juste tu y vas et puis tu danses et tu trouves, t'explores un petit peu. C'est assez marrant et ils vont faire un énorme concert encore avec trois artistes. Il y a Deadmau5, il y a trois artistes et c'est des trucs comme pour le truc de Travis Scott. Ah oui, c'est Steve Aoki, Dylan Francis et Deadmau5. Comme le truc de Travis Scott, c'était vraiment un show, quoi. Tu arrivais dans le jeu et tu avais le concert qui commençait. Il y avait un avatar énorme de Travis Scott dans le fond et il commençait à danser, à faire tous ces trucs. Toi, tu dansais autour. Et après, ça devenait une expérience. Ça durait que 10 minutes, mais après, il passait sous l'eau et puis toi, tu pouvais nager sous l'eau. Et après, tu étais dans l'espace, c'était psychédélique. Enfin, c'est vraiment un concert, une expérience spécifique. Je trouve ça hyper intéressant et important. Et ça a presque plus vraiment à voir avec le jeu vidéo, mais quand même. Et, c'est vraiment... et il va y en avoir un, c'est aujourd'hui. Donc, ça sera un petit peu tard si vous n'écoutez cet épisode que demain. Mais il y a un concert pour Party Royale encore avec tout ça. Vous pouvez bien sûr regarder ça sur YouTube aussi.
C'est la preuve de plus du potentiel d'un jeu comme ça en tant que réseau social, en fait. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle de ça, qu'apparemment qu'il y a plein d'ados qui se connectent à Fortnite, pas pour jouer, mais pour parler avec leurs potes et tout ça. Et c'est la preuve de plus que c'est ça qui est en train de devenir Fortnite, quoi.
Mais tu sais, évidemment, ils appuient sur le trait encore plus chez Epic, mais World of Warcraft, Destiny, tous ces jeux, c'est un petit peu ça aussi pour beaucoup de jeux.
Ouais. Je suis d'accord.
Ouais. Pas pour,
avec le confinement, ça rajoute forcément un peu plus, quoi.
Visiblement, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui s'ajoutent en amis sur les réseaux sociaux très substantielle. C'est compréhensible, bien sûr. Alors, quelques petites news en plus. On va passer rapidement sur le Stadia Connect qui, franchement, comme j'en plaisantais sur Twitter... Est-ce que j'en parlais à l'épisode précédent ? Je crois pas, mais j'en plaisantais sur Twitter. Je ne m'attendais à rien... mes attentes étaient hyper basses et du coup, ça correspondait à mes attentes, tu vois.
Ah oui,
c'était
bon,
c'était vraiment décevant, en fait, comme je m'y attendais. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Il y a un truc intéressant quand même, il y a PUBG qui est ajouté à Stadia, bon ok, très bien, ça fait partie de l'offre pro, donc tout le monde l'a en ce moment parce qu'ils viennent d'ouvrir le truc et tout le monde est dans l'offre pro gratuite de ces deux mois. Il y a des jeux EA qui sont des jeux anciens, il y a des FIFA, Star Wars, Jedi Fallen Order, Madden, machin, mais là où c'est intéressant pour EA, c'est que ça veut dire que EA prend à bras le corps Stadia. Et donc évidemment pour les jeux qu'ils ont mis maintenant, c'était des vieux, donc c'est pas forcément hyper intéressant pour des joueurs comme nous, mais à l'avenir, ça peut vouloir dire que EA va continuer à soutenir Stadia et mettre ses nouveaux jeux sur Stadia également. Donc ça, je trouve ça assez intéressant.
Ouais, c'est pas rien pour le coup, parce que c'est quand même ouais. Ça reste un gros éditeur, hein,
C'est ça. J'ai vu beaucoup de réactions qui disaient « Oh, mais c'est des vieux jeux, EA, on s'en fout. » Oui, effectivement, pour ces jeux-là, on s'en fout, mais le fait que EA prenne cet engagement, c'est significatif quand même. Mmh. Et puis, d'accord. On a des chiffres avec les rapports trimestriels. Deux chiffres que je retiens qui sont les plus intéressants selon moi. Je ne vais pas vous saouler avec tous les chiffres des bénéfices de Activision et de Sony, mais... Microsoft a annoncé qu'ils ont plus de 10 millions d'abonnés pour le Game Pass et Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 55,7 millions de Switch et de Switch Lite dans le monde. Deux chiffres assez intéressants. Est-ce que tu as des remarques là-dessus ?
Pas spécialement. Enfin, sur la Switch, ça me paraît normal. Ça m'étonne pas spécialement. Sur Game Pass, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que eux, ça fait longtemps que Microsoft ne communique plus vraiment sur les chiffres de vente, sur les nombres de consoles vendues, etc. Mais ils vont plutôt se baser sur le nombre d'abonnés. Et c'est une preuve de plus qu'ils sont vraiment en train de basculer leur modèle économique là-dessus. En fait, Je serais vraiment curieux de savoir la proportion des gens qui auront l'année prochaine, par exemple, qui seront passés à la Series X ou à la Xbox, quel seront le pourcentage de gens qui auront en plus le Game Pass. Aujourd'hui, ça me paraît presque indispensable, entre guillemets, en plus d'avoir une console Microsoft, d'avoir un Game Pass derrière, parce que ça coûte pas très cher, en fait, par rapport à tout ce que ça t'apporte, quoi.
Bah, non seulement, effectivement, ça coûte pas très cher, mais disons qu'on a tendance à surévaluer le pourcentage des gens qui seraient sur Game Pass. Je sais pas si tu, ou qui prennent ce genre de service en général. Je sais pas si tu avais suivi cette affaire, mais il y a quelques mois, on avait eu les chiffres de nombre d'abonnés PlayStation Plus par rapport au nombre de consoles vendues. Et on est à plus de 100 millions PlayStation 4 vendus. Et seulement, alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui en ont acheté plusieurs, mais il y a seulement 30 ou 35 millions d'abonnés PlayStation Plus. Tu vois, c'est un tiers, alors qu'on se dirait le PlayStation Plus, c'est un peu indispensable. Et là, bien sûr, le Game Pass, c'est pour nous une affaire incroyable. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la promotion super extra avantageuse pour le Game Pass qui fait qu'il y a plein de gens qui l'ont pris.
Ah, ils sont ultra agressifs, quoi.
C'est clair, mais 10 millions, c'est un très beau chiffre, quoi. C'est un très, très beau chiffre.
C'est un très beau chiffre. Et en plus, le lancement sur PC, j'avais oublié, mais aujourd'hui, le Game Pass PC, alors PC uniquement, certes, c'est 4 euros par mois, quoi. Je veux dire, 4 euros par mois, c'est quasiment rien. Ça permet de jouer à Gears Tactics, à Ori, à Street of Rage 4.
Il est qu'à 4 euros le PC uniquement, je me souviens.
On est toujours, là, je suis dans le site, il dit prix de lancement 3,99 euros par mois. Donc peut-être qu'à terme ça va s'augmenter peut-être,
c'est une affaire
4 euros par mois, quoi. Enfin, c'est évidemment que tu le prends à ce prix-là, quoi.
C'est clair. Et du coup, pour donner une idée, le EA Access a 5 millions d'abonnés, c'est pas exactement la même chose, 5 millions d'abonnés, et le PlayStation Now a 1 million. À vrai dire, même 1 million pour le PlayStation Now, ça me surprend. J'aurais pensé qu'ils en auraient pas autant.
Vu la qualité du service et la façon dont Sony ne le pousse pas du tout, quoi.
C'est
pas si mal, effectivement.
C'est pas si mal. Et tu sais que tu peux installer les jeux sur PlayStation Now aussi. Donc,
ouais,
c'est
sur
pas
console,
que
oui, tu peux, effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une preuve de plus que le modèle par abonnement, il va exploser vraiment dans les années à venir, quoi.
C'est sûr, ouais.
N'en déplaise à plein de gens qui râlent en disant que c'est pas bien, mais c'est comme ça.
Bon, je crois qu'il y a peu de gens qui râlent sur le modèle abonnement. Hein. Même là, ça fait plus d'un an qu'on est
sur Twitter pourtant.
Non, mais ça compte pas. Sur Twitter, tu trouves des gens qui râlent sur tout.
Je te rappelle que je travaille pour jeuxvideo.com, donc on y en termes de communauté, de commentaires.
Mais justement, ça devrait te vacciner. Bon, quelques petites news pour conclure. Je ne sais pas si tu as vu le combat entre les aliens verts et les aliens mauves sur GTA Online et qui déborde sur TikTok et partout. Non, t'as non, pas vu. Bon, écoute, Rockstar est en plein dedans et favorise le truc parce que ils ont rendu gratuit les costumes d'Alien Vert et d'Alien Mauve. En fait, c'est une sorte de guerre des gangs marrante où les joueurs s'habillent en costumes d'Alien Vert et ou Alien Mauve et ils font des raids en tapant les gens avec des queues de baseball, des queues de billard. Et c'est genre complètement what the fuck, mais ça a beaucoup plu. C'est bon enfant, hein. Mais ça fait une sorte de guerre des gangs. Ça a débordé sur TikTok, c'est en train d'arriver sur Twitter et un peu partout. Et c'est assez drôle. Et évidemment, Rockstar, très intelligemment, aide le truc en rendant le costume qui était un peu cher en monnaie en jeu, rendant le truc gratuit. Donc ils encouragent le truc, c'est marrant. Facebook est en train de travailler sur un Oculus Quest plus petit et moins lourd, ce qui est une très bonne nouvelle. Le prochain jeu d'Amazon, une sorte de FPS par équipe compétitif, va sortir le 20 mai, donc dans une dizaine de jours, un peu plus. Il s'appelle Crucible. Nintendo, on en parlait tout à l'heure, ils ont vendu 13 millions d'Animal Crossing en un mois et demi. 13 millions, plus de 13 millions, presque 13 millions et demi. Invraisemblable.
Dans toute l'histoire du jeu vidéo, il n'y a pas eu un meilleur timing pour lancer un jeu, quoi. Pour lancer un jeu comme ça, quoi. Le confinement commence, Animal Crossing disponible, bam, c'est incroyable, quoi.
Et Cyberpunk 2077 aurait visiblement des moyens, d'après la classification ESRB, des moyens de customiser votre appareil génétique. Non, pas appareil génétique, genitalia, vos génitales.
Partie génitale.
Partie génitale, merci, c'est difficile. Il va falloir que je pratique parce que bientôt, il faudra expliquer les abeilles et les oiseaux à mon fils. Donc, il faut que j'utilise les bons termes. Donc, vous pourrez customiser votre sexe et d'autres parties génitales. Voilà, dans Cyberpunk 2077, il y a d'autres petites joyeusetés hein, dans le domaine de la violence ou autre. Mais bon... C'est un jeu... Pourquoi? Dans quel contexte? Comment? Bon, voilà, c'était la note pour terminer cet épisode du Rendez-vous Jeu.
Se le permettre parce qu'ils peuvent le faire, tu vois. Pourquoi pas, tu vois.
Ouais, c'est un peu... C'est vrai que les testicules des chevaux Red Dead Redemption 2 étaient...
Ouais, mais surtout, est-ce que ça implique des scènes de nudité dans le jeu, tu vois?
C'est ça
qui s'intéresse. Et
vois, évidemment.
Et puis, j'imagine que tu pourras te faire une femme qui a un sexe d'homme et inversement, enfin... J'imagine qu'il pourra créer des transgenres, du coup. Enfin, je pense que ça va être... En plus, par rapport à l'univers, ce ne serait pas complètement déconnant, tu vois.
Oui, c'est tout à fait possible, ouais. Et c'est vrai que, du coup... Bon, imaginons, soyons sérieux deux secondes, c'est vrai que si on customise tout le corps de notre avatar, dans un jeu adulte avec des propos adultes et des scènes adultes qui ne sont pas forcément de nature voyeuriste ou ce genre de choses. Simplement, s'il y a des moments où les personnages sont nus dans les scènes, parce que c'est un jeu qui est adulte pour adulte, on customise tout le personnage et on customise la peau, le visage, le corps, la taille, les bras, etc. Pourquoi ne pas customiser les seins, le sexe aussi, finalement? J'imagine que tu vois, tu es le développeur, tu arrives forcément à un moment à cette question. Tu es en train de tout customiser. Il y a des scènes où les personnages sont nus. Tu te poses la question, est-ce que tu customises le sexe? Et puis à un moment, tu dis, bah oui, allons-y, quoi. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, peut-être. Donc... Intéressant. Des questions qu'on ne pensait pas forcément se poser au début de journée.
Non, mais c'est vrai que ça c'est, enfin bon, bref, c'est intéressant. Cela dit, dans The Witcher, ils avaient l'habitude aussi de montrer des nudités. Hein. Dans The Witcher 3, il y a quand même pas mal de nudités. Donc ça va complètement dans leur façon de. Ça colle très bien avec CD Projekt.
Bon, ben voilà, merci beaucoup, GJK, de m'avoir accompagné dans cette aventure vidéoludique. Si les auditeurs en veulent plus, ils veulent plus de JK, où est-ce qu'ils doivent aller?
Ils doivent aller sur jeuxvideo.com hein, pour des sujets plus tech, hardware, même si je fais aussi des tests de jeux. Hein. J'ai testé récemment XCOM, Chimera Squad, par exemple. qui est pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, tu vois, j'ai oublié de t'en parler en disant que j'y avais joué, mais c'est pas grave. Ils peuvent aller aussi sur donc le journal du hardware aussi, qui continue à distance, hein, confiné, mais qui va le continuer encore à confiner pendant quelques temps, tous les vendredis de 16h30 à 18h30 sur le stream. Et sur ZQSD, bien sûr, podcast de jeux vidéo. Là, on a enregistré un numéro il y a quelques temps. On a fait un hors-série spécial FF7 Remake, hein, justement. Et voilà, et prochain numéro, toujours enregistré à distance. A priori, on va continuer à enregistrer à distance pour le mois de mai, pour le prochain numéro. Donc voilà, normalement, prochain numéro enregistré la semaine prochaine. Donc ça devrait arriver courant mai, on va dire.
Magnifique, et je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également suivre l'émission sur frenchspin.fr, commenter si on a dit des choses que vous, qui vous semblent stupides ou inexactes, commenter sur le blog frenchspin.fr. Je parlais d'Instagram, vous pouvez voir ce qui se passe dans ma forêt. Ce matin, figure-toi, JK, qu'il y a un renard qui est venu dans le jardin. Il est venu nous dire bonjour et on a très vite amené le petit pour qu'il voit le renard. Et donc, j'ai filmé ça et j'ai mis ça en story sur Instagram. Y a plein de choses. Oui, on a des renards. Il y avait des élans il y a quelques jours dans le champ. Un élan qui se met à te gueuler dessus, je peux te dire que tu ne fais pas le fier. Hein.
Ouais, j'imagine, ouais.
Un élan qui braille, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ce n'est pas tout petit cette bestiole. Et ouf, c'est tu vois l'appareil reproductif masculin tout à coup réduit de taille de moitié, c'est voilà.
On dirait une raglette dans Cyberpunk 2077, quoi.
C'est ça, exactement. Donc pour voir un petit peu tout ça, vous pouvez aller sur patreon.com/ non, qu'est-ce que je raconte, vous pouvez aller sur Instagram, NotePatrick sur Instagram, tout ça et plus. Et je parlais de Patreon, bah, si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvjeux, comme j'en parlais tout à l'heure. Les liens sont dans les notes de l'émission et ça prend vraiment 2 minutes à faire et ça aide énormément l'émission. Donc pour l'information, pour la bonne humeur, pour la sympathie, pour les moments passés ensemble, patreon.com/rdvjeux. On vous envoie plein de bises et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.